La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever.
Et oui, on est toujours en direct, c'est notre journal en ce mercredi 29 novembre, et ravi de vous retrouver, Michel. Bonjour, bienvenue chez vous.
Bonjour Joël.
Allez, attaquer la chronique d'entrée, vous en parlez de Constellations et Galaxies.org, mais on en dira quelques mots quoi qu'il arrive à la fin. Allez, si vous voulez bien, donc Michel, votre 105e chronique astro. Allez, on va ouvrir par l'actu, et notamment un ovni dans le ciel de l'Aquitaine, Michel.
Voilà. Cet événement remonte à une dizaine de jours, puisque c'est le samedi 18 novembre, vers 19h20, que de nombreux témoins ont pu voir un phénomène inhabituel dans le ciel, en Aquitaine et bien au-delà, jusque dans les Pyrénées, même en Espagne. Donc un ovni au sens littéral, puisque objet volant, car il passait dans le ciel, et non identifié, car on ne savait pas ce que ça pouvait être pour la plupart des spectateurs. Je peux d'ailleurs vous donner un témoignage personnel, car j'ai aperçu cette lueur aussi. Avec quelques membres de mon club d'astronomie amateur du Mussidanais, nous étions partis rendre visite à nos collègues de GAP 47, qui ont une très belle installation à Montéral, avec un observatoire comprenant deux coupoles abritant des télescopes de fabrication maison, l'un de 500 mm de diamètre, l'autre de 300, et une troisième coupole accueillant un planétarium numérique. C'est juste à côté de Fumel, dans la vallée du Lot, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Villeneuve-sur-Lot. Et je conseille à nos auditeurs qui passeraient par là de leur rendre visite, car ils accueillent le public tous les vendredis soirs à 21h. Et pour une somme modique, vous pourrez assister à une séance de planétarium avant une soirée d'observation du ciel au télescope, bien sûr si la météo le permet. Pour plus d'infos, voir leur site en ligne qu'on trouve facilement en cherchant GAP 47 dans un moteur de recherche, sigle qui signifie Groupe d'Astronomie Populaire, qui montre bien leur vocation d'éducation populaire dès leur création, et 47, le département du Lot-et-Garonne. C'est une association créée en 1983 qui a fêté cette année ses 40 ans d'existence, la construction de son observatoire ayant débuté dès 1987 par une première coupole inaugurée 2 ans plus tard. Mais revenons à notre ovni du 18 novembre. Comme la plupart des participants, j'étais sous la coupole du télescope de 500 mm pour admirer les reliefs lunaires, Saturne et Jupiter, quand un membre resté à l'extérieur a attiré notre attention vers une lueur bizarre et intense à l'ouest, et nous sommes tous descendus dehors pour mieux la voir. C'était comme une grosse boule lumineuse qu'on apercevait au travers du voile nuageux et qui allait en grossissant et en s'affadissant progressivement. J'ai même pu en prendre quelques photos, pas très bonnes car la luminosité était faible pour mon appareil. Bien entendu, tout le groupe d'astronomes amateurs a commencé à s'interroger sur la nature de cette observation, en commençant par l'hypothèse d'une aurore boréale, car on sait que le Soleil est très actif en ce moment, et qu'on a pu en voir récemment en Bretagne, Normandie et même jusque dans les Alpes. Mais ça ne collait pas du tout, vu sa direction ouest, les aurores qui sont parfois visibles en France sont toujours au nord. Ni la couleur, car les aurores visibles sous nos latitudes sont généralement rougeâtres. Ensuite, on a pensé à un effet dû à une fusée, en évoquant le tir du Starship qui avait eu lieu l'après-midi. En effet, j'avais eu l'occasion d'observer en 2009 le passage prévu d'une fusée Atlas V américaine, lancée quelques heures plus tôt, et au lieu du petit point lumineux que j'attendais, comme pour les passages de satellites ou de l'ISS, j'avais eu la surprise d'apercevoir une grosse boule faiblement lumineuse qui grandissait en s'avançant à la poursuite du petit point qui était bien l'engin spatial. J'ai appris ensuite qu'il s'agissait d'une sorte de bouffée de gaz larguée par la fusée.
Alors finalement, Michel, Avez-vous trouvé ce que c'était ?
Alors en effet, peu de temps après notre observation, nous avons eu la solution en ligne sur nos smartphones. Devant l'avalanche de témoignages du passage d'un ovni dans le ciel d'Aquitaine, sur les réseaux sociaux, le ministère des Armées a publié dans la soirée un communiqué confirmant le tir d'essai d'un missile depuis la base de Biscarros vers l'Atlantique. D'ailleurs, certains observateurs plus proches de la base avaient pu assister à son décollage sous forme d'un point très lumineux montant rapidement dans le ciel. Je pense notamment à nos amis d'AG33, dont Corinne, qui se trouvait à leur site d'observation du mémorial de la ferme de Richemont à Saucat, à environ 50 km du site de tir. Pour nous, à Montéral, l'hypothèse d'une fusée était confirmée et l'OVNI n'en était plus un puisque parfaitement identifié. J'invite tout de même nos auditeurs à réfléchir à la puissance de ces engins que nous envoyons vers le ciel, car si mon petit groupe a pu être impressionné par la lueur de ce missile qui se trouvait à plus de 170 km de nous au moment du tir, mais probablement bien plus loin sur l'Atlantique lorsque nous l'avons vu, on peut imaginer ce que donnerait une vraie fusée comme celle tirée de Kourou ou de Cap Canaveral. Le missile M51, destiné à être lancé depuis un sous-marin à portée des ogives nucléaires, fait dans les 12 mètres de haut et 54 tonnes, donc presque un jouet quand on le compare aux lanceurs lourds comme le SLS de la NASA, de 111 mètres et 2600 tonnes, ou le Starship de SpaceX tiré le même jour que le missile, avec ses 120 mètres et 5000 tonnes au décollage. Autant dire que ces monstres produisent une poussée énorme qui se traduit par une immense traînée lumineuse et un bruit formidable. Pour leur sécurité, les spectateurs sont généralement installés à plus de 10 km des plateformes de lancement. Et malgré la distance, la plupart des témoignages, moi j'ai jamais assisté donc je ne peux pas en parler, parlent d'un rugissement assourdissant et de vibrations comparables à un petit séisme. Nos engins spatiaux sont vraiment hors normes en termes de puissance comparés à nos autres réalisations humaines.
Alors justement, le même jour a été tirée une fusée Starship et ça s'est mal terminé.
Effectivement, avant de partir à Montéral, j'ai regardé en direct sur le site de SpaceX le deuxième essai de lancement du Starship, la fusée géante de cette société, constituée du vaisseau Starship lui-même, haut d'environ 50 mètres et pesant dans les 1300 tonnes au décollage, fixé au sommet du premier étage baptisé Super Heavy, d'environ 70 mètres et 3600 tonnes. C'est la plus grande fusée jamais construite par l'homme, surpassant les Saturne V des missions lunaires Apollo et le SLS de la NASA. Nos auditeurs se souviennent peut-être du premier essai dont j'avais parlé en avril. Dès le départ, ça ne s'était pas bien passé, car 3 des 33 moteurs du Super Heavy ne s'étaient pas allumés, ce qui a réduit la poussée initiale. Et environ 3 minutes après le tir, au moment où aurait dû se produire la séparation des deux étages, ça n'a pas fonctionné et l'ensemble a commencé une trajectoire incontrôlée dans une sorte de spirale à 39 km d'altitude et menacé de retomber vers le sol, ce qui a conduit le centre de contrôle à déclencher sa destruction dans une énorme explosion. Un feu d'artifice de quelques dizaines, voire je dirais plutôt centaines de millions de dollars. De toute façon, pour ces tests, SpaceX ne prévoit pas de récupérer les éléments du vaisseau qui sont pourtant conçus pour être réutilisables en venant se reposer en douceur sur Terre après leur mission. Lors de ce tir du 20 avril dernier, la plateforme de lancement avait aussi été gravement endommagée, faute d'un système de protection contre la chaleur et la poussée, dont Elon Musk avait cru bon pouvoir faire l'économie pour cette première tentative, et le tir avait projeté des blocs de béton à des centaines de mètres. Cette fois, le 18 novembre, un déflecteur et un système de refroidissement par aspersion massive d'eau étaient opérationnels, testés avec succès en juillet dernier. C'est ce dispositif qui produit le grand panache blanc qu'on voit à la base des fusées lors de leur décollage. Pour ce deuxième test, tous les moteurs du Super Heavy ont parfaitement fonctionné, amenant l'ensemble à une altitude de 75 km en un peu moins de 3 minutes et atteignant alors une vitesse de 5600 km/h. La séparation des deux étages s'est alors correctement déroulée aussi, mais c'est là que les choses ont mal tourné. Au lieu de retomber dans l'océan Atlantique après son retournement, le premier étage Super Heavy a explosé. Une autodestruction commandée automatiquement par un dispositif de sécurité après le constat que les moteurs prévus pour cette manœuvre ne fonctionnaient pas correctement. Le deuxième étage Starship a lui poursuivi son vol encore presque 5 minutes, montant jusqu'à 148 km d'altitude, donc sortant officiellement hors de l'atmosphère, et atteignant une vitesse supérieure à 24 000 km/h. Mais 28 secondes avant l'extinction prévue de ses moteurs, le centre de contrôle a perdu le contact avec le vaisseau, comme tous les spectateurs ont pu le constater, car les données de vol fournies en direct ont cessé de s'afficher. Il apparaît que cet étage a lui aussi été sacrifié par le système d'autodestruction automatique, sans qu'on en connaisse pour le moment la raison exacte, et qu'il a terminé son vol dans une grande explosion, au lieu de poursuivre son orbite jusqu'au-dessus du Pacifique comme prévu.
C'est donc un second échec pour le Starship et SpaceX.
Alors oui et non. Pour la société privée, il n'y a jamais d'échec, car leur objectif est de progresser d'un essai à l'autre. Pour l'anecdote, SpaceX n'utilise même pas le terme « explosion » pour évoquer la destruction en vol de ses engins, mais utilise l'expression « désassemblage rapide non planifié ». Ce deuxième test devait confirmer la bonne progression du lanceur qui avait subi un millier de modifications depuis le premier essai en avril. Et sur son site, la société met en avant les réussites de ce nouveau tir, à savoir le bon fonctionnement des 33 moteurs du Super Heavy, le bon comportement de la plateforme de lancement avec son système de refroidissement, la séparation réussie des deux étages avec le nouveau dispositif dit séparation à chaud, et le début de retournement du Super Heavy, le bon allumage des 6 moteurs du Starship après séparation et leur bon fonctionnement pour la plus grande partie du vol prévu. Même si cela peut sembler un gaspillage énorme de ressources, c'est depuis ses débuts la stratégie de ces sociétés privées de progresser par essais et corrections. Aujourd'hui que son lanceur Falcon 9 exécute régulièrement des vols pour propulser les astronautes vers l'ISS, on oubliait qu'entre 2010 et 2014, tous les tirs ont été soit des échecs, soit ont été annulés. Et même les premières tentatives de retour contrôlé du premier étage ont connu encore plusieurs échecs entre 2014 et 2016. Mais on considère maintenant que SpaceX maîtrise bien le lancement de son Falcon 9 et de la capsule Crew Dragon, au point de lui confier la vie de 4 astronautes lors de chaque mission vers l'ISS. La société affiche d'ailleurs fièrement ses succès sur son site en ligne, avec les compteurs des lancements. Et hier, lorsque je préparais cette chronique, on pouvait lire sur cette page 286 lancements et 249 retours sur Terre réussis. Elle a exécuté 135 tirs ces deux dernières années, la plupart pour mettre en orbite sa constellation de satellites de communication Starlink, avec des cadences de plus en plus grandes, puisque c'est dès le début septembre de cette année qu'elle battait son record des 60 lancements de l'année 2022. Donc en moyenne, presque 2 par semaine. Il faut dire que cette société privée abordait le domaine des lanceurs spatiaux sous l'angle d'une véritable industrialisation des tirs, avec la réutilisation des étages, ce qui abaisse drastiquement leur coût et qui devrait culminer avec le Starship 100% réutilisable, pensant qu'il pourrait à terme faire baisser le prix d'une mise en orbite à moins de $200 par kilo, coût bien moins élevé que pour les lanceurs non réutilisables, comme le SLS de la NASA ou Ariane de l'ESA, l'Agence spatiale européenne.
Et à ce propos, où en est-on avec Ariane 6 ?
Alors, comme je l'avais indiqué en juillet, le dernier tir de la fusée Ariane 5 a eu lieu le 6 juillet dernier, alors que, suite à différents retards, sa relève Ariane 6 n'était pas prête et on attendait le premier tir d'essai à la fin de cette année. Une étape importante ayant été franchie la semaine dernière, c'est l'occasion de faire le point sur l'avancement de cette future fusée européenne. Le 5 septembre, un test court de mise à feu du moteur Vulcain, qui équipe son premier étage, a réussi pendant les 4 secondes prévues, mais une anomalie avait été détectée sur le système hydraulique permettant d'orienter la tuyère, ce qui avait retardé de quelques semaines les essais suivants. Les 23 et 24 octobre a eu lieu une répétition générale des 30 heures d'opération précédant un tir, afin d'éprouver les 4 pannes et les solutions apportées. Et jeudi dernier, 23 novembre, c'est un nouveau test du moteur Vulcain qui s'est déroulé avec succès, mais il s'agissait cette fois de tester au sol son fonctionnement pendant toute la durée prévue pour un tir du lanceur, soit près de 8 minutes, pendant lesquelles il a brûlé les 150 tonnes d'oxygène et d'hydrogène liquide dont étaient remplis les réservoirs du premier étage. Ce test comprend aussi toutes les installations de lancement, car il s'est déroulé sur le pas de tir, qui était protégé pendant l'allumage du moteur par un déluge d'eau pour le refroidir. Tout s'est bien passé, et pendant cet essai, de nombreuses mesures ont été enregistrées par plus de 800 capteurs. Toutes ces données doivent maintenant être analysées, ce qui devrait prendre environ 2 semaines, avant de donner le feu vert pour l'étape suivante, c'est-à-dire le premier vol, mais qui n'est prévu maintenant que début 2024, sans que l'ESA n'ait précisé cette échéance. À noter qu'une annonce importante a été faite par l'ESA lors du Space Summit de Séville, un sommet des ministres européens qui s'est tenu début novembre. Après l'abandon du projet de mini-navette Hermès au début des années 1990, puis la réalisation de l'ATV, un ravitailleur automatique de l'ISS qui a volé 5 fois entre 2008 et 2014, l'ESA lance une compétition industrielle pour la construction d'un vaisseau réutilisable automatique qui devrait pouvoir être propulsé en orbite par Ariane 6 dès 2028. Il est question de pouvoir emporter 4 tonnes de fret jusqu'à l'ISS et 2 tonnes au retour, avec une possible évolution ultérieure vers des vols habités. Pour ce projet, l'ESA adopte une stratégie similaire à celle de la NASA avec SpaceX et ses concurrents. Il s'agit non pas de sous-traiter la réalisation du vaisseau, mais d'acheter le service de transport, le constructeur restant propriétaire de son véhicule qu'il pourra proposer à d'autres agences spatiales. Pour l'heure, on connaît deux sociétés européennes susceptibles de concourir à cet appel d'offres. Ariane Group, qui développe Suzy, une capsule pouvant se poser en douceur au sol, dont la première version serait capable d'emporter 3 tonnes jusqu'à l'ISS, peut-être dès 2025, avant qu'une version pratiquement deux fois plus grosse ait la capacité de transporter 5 astronautes et 7 tonnes. L'autre compétiteur pourrait être une start-up bordelaise baptisée The Exploration Company, qui développe la capsule Nyx, présentée fin 2022, et qui a déjà signé en septembre dernier un accord avec la société américaine Axiom pour un transport de fret vers sa future station spatiale privée en 2027. En tout cas, l'annonce de ce projet indique clairement que l'Europe souhaite atteindre l'autonomie dans le lancement en orbite de fret ou plus tard d'astronautes, sans continuer à dépendre de ses partenaires américains et russes. Comme le préconisait en mars dernier, le rapport du groupe consultatif de haut niveau, constitué à la demande du président de la République, document qui souhaitait même développer cette indépendance jusqu'à la possibilité de vol habité vers la Lune. On peut sans doute y voir un effet de la guerre en Ukraine et de ses conséquences désastreuses dans le domaine de la coopération spatiale.
Quelques nouvelles des sondes spatiales, Michel ?
Oui, alors début novembre, la NASA a publié des photos de Io, satellite de Jupiter, prise par Juno, la sonde en orbite autour de cette planète depuis 2016, qui a survolé Io à seulement 12 000 km de distance le 15 octobre. Et sur ces images, par comparaison avec des photos précédentes prises par la sonde Galileo dans les années 1990 ou Voyager en 1979, on a pu mettre en évidence des modifications d'aspect de la surface dans différentes zones. Cela n'a rien d'étonnant car on sait que ce satellite est actif avec environ 150 volcans qui crachent des laves riches en soufre, d'où les couleurs jaunâtres pour le soufre refroidi ou noires pour le soufre liquide qui sont visibles sur Io, parfois surnommées la pizza par les Américains. Lorsqu'on avait découvert cette activité avec les sondes Voyager, cela avait été une grande surprise car on pensait que les lunes de Jupiter, visibles jusque-là dans les télescopes uniquement comme des petits points brillants orbitant autour de la planète, étaient refroidies et relativement inertes comme notre propre Lune. On a alors compris que c'était l'influence de la très massive Jupiter qui pouvait les réchauffer par ce qu'on appelle les effets de marée. Pour le comprendre, on peut penser à une balle de caoutchouc que l'on malaxe et qui se réchauffe dans notre main. On peut s'attendre à ce que Juno nous fournisse des images encore plus impressionnantes prochainement, car sa trajectoire doit l'amener presque 10 fois plus près de Io lors de ses prochains survols en décembre puis en février. Côté surprise, on en a eu une le 1er novembre dernier lorsque la sonde Lucy a photographié le petit astéroïde d'Inkinesh d'environ 800 mètres de diamètre. Lucy est une sonde de la NASA lancée le 16 octobre 2021 et dont la mission principale est l'étude d'astéroïdes troyens de Jupiter, c'est-à-dire qui orbitent autour du Soleil sur la même trajectoire que la planète, car elles sont comme piégées devant et derrière elles dans des régions où son attraction et celle du Soleil s'équilibrent. Elle doit les atteindre à partir de 2027, mais on profite qu'elle passe d'abord dans la ceinture principale d'astéroïdes, située entre les orbites de Mars et Jupiter, pour en étudier deux dont sa trajectoire s'approche, d'Inkinesh au début de ce mois, puis après être repassé près de la Terre pour s'accélérer en décembre 2024, Donald Johansson en avril 2025, lors d'une seconde traversée de la ceinture principale. Il a fallu un peu de temps pour que les images prises lors du passage à seulement 430 km de Dinkinesh nous parviennent, mais cela valait la peine car elles contenaient deux surprises. Pas sur l'astéroïde lui-même, qui ressemble assez à Bennu, visité par Osiris Rex qui en a rapporté récemment des échantillons sur Terre. C'est une sorte de toupie présentant un renflement à son équateur et de nombreux rochers à sa surface qui évoquent un corps assez peu consistant, un peu comme un tas de cailloux, si j'ose dire, faiblement lié par la gravité. Mais la surprise est venue de l'existence d'un compagnon d'une taille de l'ordre de 200 mètres qui orbite autour de lui. Et c'est la première fois qu'on observe un système binaire d'aussi près. Cela semble indiquer que ces couples sont plutôt fréquents dans la population des astéroïdes. Mais on n'était pas au bout des surprises, car sur une image prise 6 minutes plus tard, sous un autre angle, car dans l'intervalle, Lucie s'était déplacée de près de 1500 km, on voit que ce compagnon est formé de deux corps distincts, de même taille, qui semblent comme collés l'un à l'autre. Pour le moment, on n'a pas trouvé d'explication quant à la formation d'une telle configuration. Comme quoi, l'exploration des astéroïdes fait avancer notre réflexion sur le système solaire, alors qu'ils peuvent sembler a priori des petits corps de peu d'intérêt. Et enfin, une information concernant la sonde Psyché, dont j'avais annoncé le lancement la dernière fois, et qui est destinée aussi à étudier un astéroïde. Comme je l'avais dit, parmi les innovations mises en œuvre sur cet engin spatial, il y a un nouveau système de communication basé sur la transmission de données par laser, qui doit permettre d'augmenter les débits, un peu comme le passage du câble téléphonique à la fibre optique pour nos connexions Internet. Ce dispositif baptisé DSOC, pour Deep Space Optical Communications, ou en français Système de communication spatiale optique, a été testé avec succès le 14 novembre dernier, alors que la sonde se trouvait déjà à plus de 16 millions de kilomètres de la Terre. Le système au sol, hébergé par le JPL à Table Mountain en Californie, a envoyé son faisceau laser infrarouge vers Psyché, qu'il a bien reçu environ 50 secondes plus tard, et auquel elle a répondu en envoyant son signal, qui a été reçu par l'observatoire du Mont Palomar. Ce n'est qu'un premier test, et les essais vont se poursuivre pendant que la sonde continue son voyage.
Et pour finir, tristement, vos actualités spatiales, Michel, la disparition d'astronautes du programme Apollo.
Alors au fond, ça n'a rien d'étonnant, puisque ces jeunes trentenaires, à l'époque de leur mission spatiale, sont aujourd'hui, plus de 50 ans après, devenus des octogénaires, dont l'espérance de vie commence à devenir très courte. C'est ainsi que l'on a appris ces dernières semaines le décès de Ken Mattingly, le 31 octobre dernier, à l'âge de 87 ans. Son nom est bien moins connu que celui de Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, les deux premiers astronautes ayant marché sur la Lune, et pourtant il a eu un rôle déterminant pour la mission Apollo 13. Prévu pour participer à cette mission, il avait été remplacé au dernier moment par Jack Swigert, car on le soupçonnait d'être atteint d'une rougeole. Mais après le grave accident qui a touché la capsule lors de son trajet vers la Lune, il a participé très activement au sauvetage de ses collègues en recherchant pendant des heures des solutions pour leur alimentation en oxygène, l'économie de l'énergie à bord, etc. Au cinéma, dans le film Apollo 13 de Ron Howard, il est interprété par l'acteur Gary Sinise. Il a finalement participé à la mission Apollo 16 en 1972, mais n'a jamais foulé le sol lunaire, car c'est lui qui est resté en orbite dans la capsule pendant que ses deux collègues exploraient la Lune. Au cours du retour, il avait effectué une sortie dans l'espace pendant le trajet entre la Lune et la Terre pour récupérer des pellicules dans les caméras extérieures. Il a ensuite effectué deux missions à bord des navettes spatiales en 1982 avec Columbia et 85 Discovery. Après sa carrière d'astronaute, il avait poursuivi ses activités dans le domaine spatial au sein de sociétés partenaires de la NASA. Et malheureusement, cette disparition a été suivie de peu par une seconde la semaine suivante, celle de Frank Borman, le 7 novembre, à l'âge de 95 ans. Il faisait partie de l'équipage d'Apollo 8, qui a le premier orbité autour de la Lune en décembre 1968, très précisément la veille de Noël, avec même une retransmission télévisée en direct, ce qui avait valu une énorme popularité à cette mission, avant d'être éclipsée par Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune 7 mois plus tard. C'est au cours de cette mission qu'a été prise la première photo de la Terre dans son ensemble par un équipage humain, pendant le transit vers la Lune, puis le fameux lever de terre au-dessus de la surface lunaire, une image iconique pour ne pas dire historique. Listée en 2003 par le magazine américain Life comme l'une des 100 photographies qui ont changé le monde, tant la vision de notre belle Terre colorée, contrastant avec la Lune grise et stérile, illustrait l'isolement de notre planète au milieu de l'espace immense et sa fragilité, suscitant les premiers intérêts pour l'environnement et l'écologie. William Anders, un des deux autres astronautes d'Apollo 8, a même dit en 2018 « Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, mais le plus important, c'est que nous avons découvert la Terre. » Après sa carrière d'astronaute, Frank Borman avait poursuivi son activité dans le domaine du transport aérien. À ce jour, parmi les 24 astronautes des missions Apollo ayant été jusqu'à la Lune, il n'en reste plus que 9 en vie, dont les deux équipiers de Borman pour Apollo 8, Jim Lowell et Bill Anders, et Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir posé le pied sur la surface de notre satellite en 1969.
Allez, on est toujours en direction de radio. C'est la chronique Astro présentée et réalisée par Michel Favret. Et là, Michel va aborder la deuxième partie de sa chronique. Voilà le thème du mois avec le programme lunaire Artemis de la NASA et SpaceX.
Alors, c'est la conjonction des trois actualités qui m'a donné l'idée de ce sujet pour faire un peu le point sur le programme Artemis. L'anniversaire de la première mission, Artemis 1, qui s'était déroulée en novembre 2022. La disparition de Frank Borman, dont je viens de parler, car à plus de 50 ans de distance, Artemis 2 devrait répéter un peu Apollo 8 en amenant des astronautes en orbite lunaire. Et enfin, l'essai plus ou moins réussi ou raté, selon qu'on voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, du Starship, qui doit jouer un rôle important dans ce programme lunaire et pourrait le retarder. Je rappelle à nos auditeurs que le programme lunaire habité Artemis de la NASA, nom choisi car sœur jumelle d'Apollon, Apollo en anglais, dans la mythologie grecque, vise à renvoyer des astronautes sur la Lune, théoriquement à l'horizon 2025, puis dans une deuxième phase, la mise en place d'installations permanentes qui permettront des séjours lunaires de longue durée. Il y a un an, le 16 novembre 2022 précisément, démarrait la mission Artemis 1 avec le premier décollage du lanceur lourd SLS propulsant la capsule Orion vers une longue orbite lunaire de 6 jours avant de revenir vers la Terre et amerrir dans l'océan Pacifique le 11 décembre. Les risques de cet essai étaient très grands avec notamment le premier tir du SLS et la première rentrée atmosphérique d'Orion avec une trajectoire de rebond et l'utilisation d'un nouveau bouclier thermique. Donc la mission s'est effectuée sans astronaute à bord, remplacé par des mannequins bardés de capteurs pour effectuer de nombreuses mesures pendant son déroulement. La prochaine étape, Artemis 2, prévoit de recommencer l'opération, mais cette fois avec un équipage à bord, les quatre astronautes déjà désignés. Le commandant Gregory Red Wiseman, le pilote, Victor J. Glower, et les spécialistes de mission Christina Kaur, première femme désignée pour une mission lunaire, et Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Mais cette deuxième étape n'est prévue que dans un an, en novembre 2024, soit 2 ans après Artemis 1. On voit bien à quel point les budgets beaucoup moins conséquents que pendant la guerre froide et la course à la Lune contre l'URSS et une prise de risque beaucoup moins grande pour les équipages conduisent à un allongement des plannings, beaucoup moins ambitieux qu'à l'époque d'Apollo. C'est seulement moins d'un an après le premier tir non habité de la fusée Saturne V en novembre 1967 qu'était lancée la première mission habitée Apollo 7 en octobre 68, suivie 2 mois plus tard par Apollo 8, que nous venons d'évoquer, pendant laquelle 3 astronautes sont partis vers la Lune et ont effectué 10 orbites autour d'elle à Noël 1968, soit guère plus d'un an après le premier tir. Et 7 mois plus tard, donc moins de 2 ans après le premier tir, Apollo 11 réussissait le premier alunissage. Pour Artemis, en étant optimiste avec un alunissage avant la fin 2025, ce qui n'a rien de sûr, il y aurait plus de 3 ans de délai après le premier tir du SLS. Et les déboires actuels du Starship de SpaceX risquent d'allonger encore ce délai, car il doit jouer un rôle déterminant dans la mission Artemis 3 qui doit marquer le retour des humains sur la Lune.
Quelle doit être la part de SpaceX dans le programme lunaire Artemis ?
Pour ce qui est du lancement, de la mise en orbite puis du transport des astronautes jusqu'à la Lune, la NASA se repose sur ses propres véhicules. Avec le lanceur lourd SLS, assez comparable en taille et puissance à la Saturne V, mais conçu en dérivant des éléments de vaisseaux plus anciens. La capsule Orion est nouvelle et peut accueillir un équipage de 4 astronautes. Elle a été développée avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui construit son module de service. Mais contrairement aux missions Apollo qui avaient été conçues tout en un, avec un seul lancement pour tous les éléments, y compris le module lunaire permettant d'alunir puis de quitter la surface lunaire, la réussite de la mission Artemis 3 repose sur des éléments extérieurs. Au départ, on devait utiliser une Lunar Gateway, station spatiale orbitant autour de la Lune et servant de relais vers un HLS, pour Human Landing System, en français système d'atterrissage pour les humains, un autre vaisseau qui doit effectuer l'aller-retour jusqu'à la surface lunaire, un peu façon navette. Pour ce qui concerne la Gateway, il est prévu un assemblage de 4 modules. PPE, pour fournir l'énergie et la propulsion, Halo, avec un H, pour l'habitation, et IAB, pour des séjours plus longs en orbite lunaire, et Esprit, pour le réservoir de carburant, la propulsion et les télécommunications. Alors que les 2 premiers sont sous la responsabilité de constructeurs américains, ces 2 derniers modules sont en cours de développement ou d'étude par les Européens Airbus et Thales Alenia Space, et devraient être lancés seulement en 2026 et 2027 par le SLS, donc après la mission Artemis 3, lorsqu'on envisage une occupation permanente de la station spatiale lunaire en prévision de l'abandon de l'ISS vers 2030. Pour le retour sur la Lune avec Artemis 3, on se contenterait donc pour un court séjour d'une version minimale avec seulement les 2 modules PPE et Halo qui doivent être lancés en 2025 par un Falcon Heavy. Attention, il ne faut pas confondre ce lanceur avec le Super Heavy, premier étage du Starship. Il s'agit d'une version plus puissante du Falcon 9 qui a été testée avec succès en octobre 2018. On s'en rappelle en propulsant un Roadster Tesla dans l'espace, histoire de faire un peu de pub à cette autre société d'Elon Musk. Depuis, il a été utilisé 7 fois, notamment pour envoyer des satellites militaires vers l'orbite géostationnaire. La dernière fois, c'était le 13 octobre avec la sonde Psyché dont on a parlé dans les actus. Et tous ces tirs ont été des succès. Il n'y a donc pas trop de doute sur la fiabilité de ce lanceur et sa capacité à transporter les 2 modules de la Gateway. Il en va tout autrement pour le Starship qui vient de rater son 2e lancement.
Alors, quel rôle doit jouer le Starship dans la mission de retour sur la Lune Artemis 3?
C'est un rôle essentiel, car ce vaisseau a été sélectionné en 2021 par la NASA pour être le HLS, la navette qui dépose les astronautes sur la Lune et les ramène ensuite à la Gateway. Et même s'il reste encore 2 ans pour y parvenir, c'est loin d'être gagné, car il reste des étapes critiques avant d'y parvenir. S'il est évident que le Starship doit commencer par réussir son lancement, ce qu'il a déjà raté 2 fois, cela ne suffit pas car il faut l'envoyer jusqu'à la Lune. Malheureusement, une fois arrivé en orbite terrestre, il ne lui reste plus assez de carburant pour faire le trajet. Et il doit d'abord être ravitaillé en vol. C'est une opération qui n'a jamais été réalisée et qui nécessite l'utilisation de plusieurs autres vaisseaux de ravitaillement, des versions modifiées du Starship pour servir de vaisseau citerne. Une étape décisive dont on n'a aucune idée du délai de sa réalisation. Mais ce n'est pas fini, car avant que la NASA confie au Starship la vie de 2 astronautes pour atteindre la surface lunaire, pendant que les 2 autres attendent le retour dans la Gateway, elle exige un test non habité réussi d'alunissage en douceur et retour en orbite lunaire. On se pose donc des questions. Dans quel délai SpaceX sera-t-elle capable de réussir ces différentes étapes afin d'entreprendre la mission Artemis 3 de retour sur la Lune? Est-ce que les 2 ans restants seront suffisants pour tenir l'objectif de 2025? Pour être complet, je dois préciser qu'une nouvelle version simplifiée d'Artemis 3 est envisagée sans l'utilisation d'une Gateway qui risque de ne pas être opérationnelle à temps. Dans ce scénario, le Starship est lancé quelques jours avant la capsule Orion, ce qui nécessite toujours son ravitaillement par plusieurs Starship tankers, et il va se mettre en attente des astronautes en orbite lunaire, où le transfert des 2 astronautes désignés pour alunir se fait directement entre la capsule Orion et le Starship. Et idem au retour 6 jours plus tard, le temps que la capsule Orion effectue sa longue orbite polaire autour de la Lune avec les 2 autres astronautes, avant que le vaisseau ne ramène tout l'équipage vers la Terre. On voit que cela ne change rien quant au rôle critique que jouera le Starship pour cette mission. Pour se rassurer, on pourrait penser qu'il existe une solution de secours, car au départ SpaceX avait un concurrent pour fournir un HLS à la NASA, Blue Origin de Jeff Bezos, qui avait proposé sa solution Blue Moon, un atterrisseur plus classique ressemblant au module lunaire d'Apollo. D'ailleurs, la société avait contesté le choix de SpaceX par la NASA auprès du GAO, un peu l'équivalent américain de notre Cour des comptes. Au final, la NASA a décidé en mars 2022 de sécuriser le programme Artemis en prévoyant un autre fournisseur du HLS, et c'est Blue Moon qui a été choisi, mais seulement pour la mission Artemis 5, prévue en 2028, alors que c'est encore le Starship qui a été sélectionné il y a 1 an pour Artemis 4. Mais pour Artemis 3 en 2025, rien ne dit que cette solution alternative serait prête à prendre la place du Starship s'il n'est pas opérationnel à temps. Pour finir, il ne faudrait pas oublier les ambitions lunaires de la Chine. Selon les déclarations du premier astronaute chinois Yang Liwei l'été dernier, elle prévoit de poser aussi 2 astronautes sur la Lune avant la fin de la décennie et commencera à tester ses vaisseaux lunaires en 2027. Il semble probable aux observateurs que l'objectif serait 2029, car 80e anniversaire de la République populaire de Chine, une date symbolique importante pour les Chinois, comme l'avait été le 50e anniversaire avec le premier vol du vaisseau habité Shenzhou en 1999. Si les Américains venaient à prendre trop de retard pour leur programme Artemis, peut-être que le retour des humains sur la Lune pourrait être réalisé par les Chinois.
On est toujours en direct hein, sur Eau Radio. De Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, toujours avec Michel Favré, l'auteur et réalisateur de cette chronique Astro, c'est la 105, numéro 105. Et là, Michel, vous allez aborder la 3e partie de votre chronique avec le ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos éditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Pour voir les cartes du ciel correspondantes, on ne peut pas montrer les cartes à la radio et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour décembre, en fin de semaine. Comme nous nous enfonçons plus profondément en automne et avec le retour à l'heure d'hiver fin octobre, la nuit survient tôt en ce moment, avec le coucher avant 17h30 et la nuit noire vers 18h30. Et après avoir passé le maximum de nuit du solstice d'hiver, ce sera analogue fin décembre. En début de nuit, même s'il reste encore quelques constellations de l'été visibles vers l'ouest, comme le Cygne et l'Aigle, et une portion de la Voie lactée, c'est le ciel d'automne qui occupe la plus grande partie du ciel au sud, avec sa constellation vedette de la saison, Pégase, déjà bien haut dans le ciel, reconnaissable à son grand carré régulier, prolongé à l'est par la double ligne d'étoiles d'Andromède, dans laquelle on peut distinguer, si le ciel est bien noir, la petite tache diffuse de la grande galaxie la plus proche de nous, à environ 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain que nos yeux parviennent à distinguer, et dans une simple paire de jumelles, on peut déjà la voir comme une petite ellipse. Sous Pégase sont figurées des constellations en rapport avec l'eau, le Verseau, les poissons et la baleine, car le cheval ailé est représenté dans le ciel au moment de sa naissance, jaillissant de la mer. Le ciel d'automne est d'ailleurs favorable pour expliquer le rapport entre les constellations et la mythologie grecque dont elles sont issues, puisque six d'entre elles, Céphée, Cassiopée, Persée, Pégase, Andromède et la baleine, en fait à l'origine un monstre marin, évoquent la légende d'Andromède. Vers l'est, c'est le ciel d'hiver qui commence à apparaître avec sa constellation centrale Orion, qui n'est complètement levée que vers 21h. Fin décembre, la situation aura notablement progressé vers l'ouest, avec en début de nuit Pégase ayant déjà franchi le méridien sud et Orion complètement levé. D'ailleurs, les trois étoiles alignées qui dessinent sa ceinture sont parfois surnommées les rois mages, car ils apparaissent dans le ciel dès le début de nuit à l'époque de Noël. Côté planète, on peut observer Saturne dès le début de nuit, car elle culmine au sud, et Jupiter, qu'on peut encore laisser monter un peu dans le ciel, soit plus tard dans la nuit, soit plus tard dans le mois, car fin décembre, Saturne sera déjà parti pour se coucher vers l'ouest et Jupiter culminera dès 20h30. Avec de simples jumelles, on peut distinguer ces quatre satellites galiléens dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. La très brillante Vénus ne peut pas être ratée dans le ciel du matin où elle reste visible longtemps dans les lueurs de l'aube. En ce moment, elle se lève vers 4h30 du matin, mais fin décembre, ce sera une heure plus tard. Comme chaque mois, la Lune produira plusieurs conjonctions avec les planètes visibles. Le samedi 9 décembre, on pourra voir un fin croissant près de Vénus dans le ciel du matin, alors que le dimanche 17, ce sera le soir que le croissant se rapproche de Saturne, puis le vendredi 22, une lune gibbeuse côtoiera Jupiter dans le ciel. Dans la nuit du 14 décembre, l'essaim des Géminides connaîtra son maximum d'activité, et comme il n'y aura pratiquement pas de lune, ce sera l'occasion de voir pas mal d'étoiles filantes si la météo est bonne. Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un événement astronomique que l'on ne pourra pas observer depuis notre région. Il s'agit d'une occultation d'étoiles, c'est-à-dire le passage d'un astéroïde devant l'étoile en la faisant disparaître quelques secondes, qui se produira dans la nuit du 11 au 12 décembre. Ce n'est pas très rare, mais cette fois c'est assez exceptionnel, car l'étoile qui sera occultée est très brillante dans le ciel. Il s'agit de Bételgeuse, l'épaule droite d'Orion, la 9e étoile la plus brillante du ciel. Malheureusement, pour voir ce phénomène très bref, il faudra être soit au sud de l'Espagne, au bout de la botte italienne, en Grèce ou en Turquie. Habituellement, ces occultations sont observées par de nombreux astronomes placés sur leur trajectoire pour déterminer la taille et la forme de l'astéroïde. Mais cette fois, c'est à l'observation de Bételgeuse que nous appelle l'Observatoire de Paris, relayé par l'AFA, l'Association française d'astronomie. En effet, cette super géante rouge est en fin de vie, proche de son explosion en supernova, qui pourrait se produire dans les prochains mois ou les prochains siècles. Toujours est-il qu'elle est dans un état assez instable qui se traduit par des phénomènes inhabituels, comme par exemple une baisse de luminosité sans précédent lors de l'hiver 2019-2020. Les astronomes veulent donc profiter de son occultation, masquant progressivement sa surface, puis la redévoilant en sens inverse, pour effectuer une sorte de scanner en mesurant ses variations de luminosité dans différentes longueurs d'onde, ce qui pourrait révéler certains petits détails de sa surface et connaître mieux les phénomènes qui s'y déroulent. Pour finir, un événement plus habituel avec le solstice d'hiver du vendredi 22 décembre, journée où la nuit est la plus longue pour nous dans l'hémisphère nord et qui marquera le début officiel de cette saison. Et bien sûr, dans l'hémisphère sud, c'est le contraire, avec la journée la plus longue de l'année et l'entrée dans l'été. À noter que ce jalon du calendrier astronomique se produit toujours tout près de Noël, car cette fête chrétienne a justement été placée à ce moment de l'année pour prendre le pas sur les fêtes païennes antérieures qui se déroulaient au solstice. J'en profite donc pour souhaiter par avance de joyeuses fêtes de fin d'année à nos auditeurs, car en principe, la prochaine chronique pourrait être le mercredi 27 décembre, à moins que des obligations familiales ne me conduisent hors de la région à ce moment-là, auquel cas elle serait reportée au 3 janvier.
Voilà, merci Michel pour la chronique. Donc on rappellera juste la dernière date, donc 27 décembre ou plus tard. C'est vrai que c'est toujours une période, on a tous besoin de se ressourcer auprès des nôtres. On va juste rappeler le site constellationsetgalaxies.org avec toutes les infos, les chroniques. Donc quelques mots sur cette chronique que vous alimentez, ce site internet.
Alors, la plus grosse partie du site est statique, puisqu'elle fait un peu l'historique de notre activité quand on parcourait l'Aquitaine avec un planétarium. La partie la plus vivante, c'est l'onglet astronomie dans l'espèce de menu qui est en haut à droite de la page d'accueil, dans lequel on trouve le ciel du mois dont je viens de parler avec les cartes et les explications plus détaillées, et la partie chronique O2 radio, où on retrouve toutes les chroniques depuis la première en septembre 2014 jusqu'à la dernière, que je mettrai en ligne à l'occasion de la mise à jour mensuelle du site dans un jour ou deux. Et elles sont dans l'ordre chronologique inverse, donc la plus récente d'abord, en haut de la liste, et on a une petite description du contenu, ce qui permet, suivant les centres d'intérêt des auditeurs pour l'astronomie ou l'astronautique, de choisir éventuellement de réécouter telle ou telle chronique. Je ne pense pas qu'on s'amuse à réécouter toutes les chroniques les unes après les autres, ce qui serait pas mal d'heures d'écoute et peut-être un peu lassant.
Très bien. En tout cas, merci, comme chaque fois, hein, pour tout ce travail. Hein. C'est de la passion, certes, mais c'est quand même du travail, hein, bien sûr, la réalisation des chroniques. Merci beaucoup, Michel. On se voit soit à la fin du mois de décembre, soit début janvier. En tout cas, un grand merci.